Bonjour, je vous propose d'écouter ou de réécouter une émission de Concordance des temps du 5 janvier 2008 qui était consacrée à la dénomination des rues. Le sous-titre était « Mémoire commune ou mémoire divisée ». Mon invité était Jean-Claude Bouvier.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Aujourd'hui, Monsieur Le Troquet, président du conseil municipal, accompagné de Monsieur Léon Blum, président du Parti Socialiste, débaptise la rue de la Chapelle pour lui donner le nom de la rue Max Dormoy. Alors que lentement...
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Où que nous habitions, tous tant que nous sommes, en France ou ailleurs, dans des villes ou dans des villages, nous n'avons pu qu'être attentifs à la vigueur des débats qui agitent toujours les conseils municipaux à propos de la dénomination des rues. On parle toujours des relations compliquées qu'entretiennent les passions et les intérêts. Eh bien, en l'occurrence, il n'est rien ou quasi rien de monnayable. De l'émotion toute brute, politique, culturelle, patriotique, de la mémoire, ou plus souvent des mémoires concurrentes. Jean-Claude Bouvier, mon invité, professeur émérite à l'Université de Provence, publie un livre stimulant sur ce sujet, qui est bien plus vaste et de bien plus grande portée qu'on ne pourrait le penser au premier abord. Car il s'agit d'enjeux considérable, lié de près à l'identité collective d'une nation et de ses multiples composantes. Il s'agit de combats civiques, où se lie toujours une certaine instrumentalisation du passé, ce mot n'est pas forcément péjoratif, au service de convictions contemporaines. Et c'est par quoi ce sujet mérite si évidemment de prendre sa place dans la liste de tous ceux qui nous réunissent chaque samedi.
J'ai changé les noms de toutes les rues, j'ai donné le nom de mon histoire. Rue du 3 juillet, c'est là qu'on s'est vu, premier jour toujours dans ma mémoire. La rue du premier rendez-vous mène à la rue des rêves tendres, et la rue qui est juste au bout, c'est la rue où j'allais t'attendre. Et voici plus loin la rue des aveux et la rue du 31 décembre, qui devint bientôt pour deux amoureux la rue de la petite chambre. Mais le bonheur n'est pas fidèle, il s'en va comme il est venu. Ma belle histoire était trop belle, en un moment j'ai tout perdu. Et tout d'un coup dans cette ville, j'ai détesté ces rues tranquilles. J'ai changé les noms de toutes les rues, j'ai donné le nom de mon histoire. Et l'horrible rue où j'ai attendu restera pour toujours la rue noire. La rue où je t'ai vu partir mène à la rue de ton absence, la rue où j'ai bien cru mourir. De la rue de la malchance, J'ai changé les noms au hasard des jours, jours heureux et puis jours détestables. Et mes noms de rue sont des mots d'amour, plus vrais que les noms véritables. J'ai changé les noms de toutes les rues, moi je m'en souviens, toi t'en souviens-tu?
Vous avez entendu Cora Vauquer qui chantait « Nom de rue » en 1954, une chanson de Michel Vauquer et Michel Lemaire. Jean-Claude Bouvier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez compris que pour évoquer la mutation des toponymies, j'ai choisi, grâce à Cora Vauquer, une sorte d'extrême. Ça va jusqu'à la subjectivité individuelle.
Oui, tout à fait. Oui.
Comme si chacun pouvait baptiser librement le nom des artères de sa ville et d'ailleurs.
Oui, enfin, ce n'est pas comme cela que ça se produit généralement, même si on peut avoir des idées sur certains noms de rues. Enfin, les noms de rues actuels sont décidés par les conseils municipaux, enfin, depuis déjà au moins un peu plus d'un siècle.
Dans bien des cas de grandes émeutes, ouais, de mouvements, d'émotions populaires, on a vu d'ailleurs des individus accrocher des étiquettes pour recouvrir les noms traditionnels par protestation.
J'ai même vu dans un tout petit village, récemment, dans le hameau d'un petit village de montagne, une avenue de Maastricht.
Allons bon.
Et qui, sous laquelle il y a écrit impasse.
Oui, le mot
sous la plaque. C'est la seule plaque de rue dans ce village et ça n'a pas été mis par les municipalités mais par un individu.
Dites-moi, Jean-Claude Bouvier, une information d'abord sur votre corpus, sur quoi vous avez pu travailler. L'informatique a dû vous être extrêmement précieuse.
Oui, tout à fait. Je crois que je n'aurais pas pu faire ce travail de cette façon-là, du moins sans l'informatique. J'ai utilisé deux bases de données, une qui s'appelle MapPoint, qui est un logiciel un peu comme GPS, de déplacement dans l'espace, qui n'est pas exhaustif malheureusement, mais qui donne beaucoup de noms à partir d'un certain niveau de population, de 3000 habitants à peu près, ce qui limite quand même les communes. Et puis un autre, alors, qui est tout à fait exhaustif, mais qui n'est pas public, malheureusement, qui est celui de la Poste.
Ah, hommage à la Poste.
Oui, c'est un hommage à la Poste. Là, je rends hommage à la Poste.
Nous le faisons ensemble.
Qui a fait un travail considérable de ce point de vue-là. Ce que je regrette, c'est que ce logiciel ne soit pas public, mais j'ai pu l'interroger et j'ai été très bien accueilli. Mais ça s'est fait au coup par coup pour un certain nombre de données et non pas pour l'ensemble.
Vous avez pu insinuer votre curiosité jusqu'à ces trésors cachés. C'est ça. Alors, nous allons parcourir les siècles pour d'abord commencer de marquer que, au début, l'origine des noms de lieux est surtout à rattacher à des propriétaires ou des promoteurs, des riverains.
Au Moyen-Âge, d'abord, les noms des rues sont ce que j'appelle les noms d'usage, c'est-à-dire des noms qui se réfèrent à une réalité spatiale. On appelle la rue des tanneurs une rue parce qu'il y a des tanneurs dans cette rue, ou bien la rue longue parce qu'elle est longue,
oui, tout simplement, ça douté, ça
ou la grande rue parce que c'est la rue principale.
Oui, tout
donc
ça,
ce sont des noms.
Tout ça, jusqu'ici, je vous suis.
Ce sont des noms d'usage très très simples qui sont parfois plus compliqués, qui indiquent toutes sortes de particularités des activités humaines dans une rue.
Quand on voit la rue Aubry-le-Boucher à Paris qui apparaît au XIIIe siècle, c'est assez clair. Mais la rue Boudbry, par exemple. La rue Boudbris, c'est différent parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des déformations de noms. Il y a un habitant qui s'appelait Hérambourg en Brie et dont le nom a été transformé en Bourg-en-Brie, puis Boudbris, puis Boudbris. Linguiste que vous êtes se passionne à aller chercher ses racines, ses origines.
Là,
des
mots. Bon, c'est les déformations populaires qui parfois relèvent du jeu linguistique.
Enfin, quelquefois, il y a un jeu de mots.
Oui, il y a des jeux de mots. Quoi.
Vous signalez qu'une rue Calard, par exemple, à Lyon, devient Calas, probablement en 1827, sous l'effet de l'affaire Calas. La grande affaire qui a illustré la générosité de Voltaire.
Oui. Ou bien des rues, tout simplement, Pont de Pierre, qui devient Pierre Dupont, par exemple, ou la rue de la Croix, qui aboutit parce qu'il y a une croix et qui est un nom d'usage précisément et qui va devenir un nom de personne avec la rue de la Croix, d'abord un de la Croix local à Toulouse, puis le peintre Eugène de la Croix.
Donc, oui, il faut bien choisir son patronyme si on veut être célébré dans ce cas-là. Oui, par exemple, quand on voit la rue Feydeau à Paris, qui traverse la rue Vivienne dans le second arrondissement, on croit que c'est un hommage à Georges Feydeau, mais pas du tout.
Non, c'est un propriétaire de terrain. Alors ça, c'est les premiers noms de personnes sont des noms de propriétaires de terrain. Il y en a déjà dès le Moyen-Âge, mais pas beaucoup. Et c'est surtout à partir du 16e, 17e, et puis surtout 18e siècle et 19e encore, que des propriétaires de terrain vont avoir leur nom. Ils cèdent leur terrain à la ville pour en faire une rue et... La ville leur rend hommage, et c'est souvent eux qui demandent à la ville de leur rendre hommage, en portant leur nom sur les plaques.
Une sorte de mécénat, comme aujourd'hui aux États-Unis, on voit le nom des donateurs à l'entrée des musées.
Tout à fait, oui.
Et un autre cas qui m'a frappé, dans le 5e arrondissement de Paris, il y a une rue Galande.
Oui.
Et on croit que c'est une rue qui était arpentée par des dames de petite vertu. Mais pas du tout, c'est Monsieur Garland, je crois.
Garland, oui.
Garland, qui était le propriétaire
du lieu. Qui était un propriétaire, je pense.
Et c'est probablement en se fondant sur ce passé lointain, Moyen-Âge, époque de la Renaissance, que beaucoup aujourd'hui continuent de penser qu'il est dommageable de changer les noms des rues, qu'on devrait tout simplement laisser s'installer l'usage au lieu d'instrumentaliser ces noms au profit de démonstrations, du service de tel ou tel. Mais moi, pour représenter cet état d'esprit, je vais vous faire entendre une archive de la radio qui remonte à décembre 1958, dans une émission consacrée à l'activité des académies et sociétés savantes. Il s'agit là de la commission du Vieux Paris, dans un texte de Robert Lolland, qui est interprété, c'était l'usage à l'époque, par Jean Toscane, qui avec Charles Bassompierre était la plus belle basse de la radio d'État.
Sur la question des noms de rue, la doctrine de la commission, qu'on ne consulte pas toujours, hélas, et dont on ne suit pas toujours les avis, ne saurait varier. Elle a été maintes fois proclamée. Les noms de rues doivent servir à guider ceux qui circulent et non à les égarer. Et il est d'autres moyens d'assurer la permanence du souvenir des hommes ou des femmes qui ont bien mérité du pays que de débaptiser rues et places pour leur donner un nom menacé dans sa durée par de nouveaux engouements. La commission s'est donc élevée une fois de plus contre la ridicule façon de faire qui ne tient compte ni des commodités des usagers, ni du respect du passé. Comme c'est surtout d'une question d'éducation du public, et spécialement des édiles qu'il s'agit, on avait aussi proposé de réunir et de diffuser les textes souvent remarquables qui ont été écrits sur cette question agaçante des changements des noms de rue. L'un des meilleurs date de 1923, et il est de Camille Julien, membre de la commission du Vieux Paris et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. L'illustre auteur de l'Histoire des Gaules déclarait « Je désire qu'on ne change jamais un vocable de rue, qu'on le laisse tel que les générations disparues l'ont créé, transformé, déformé même. Pour moi, le nom d'une rue est comme celui d'une ville, comme celui d'une famille. Il est l'œuvre du temps qu'il a façonné pour celui qu'il porte. Il a pris ses racines sur le sol ou dans la famille. Il faut l'y laisser. Il ne nous appartient plus. Jamais le monde d'autrefois n'eut compris qu'une rue, une place, fut qualifiée d'après quelque événement du jour, quelque personnage de l'histoire. C'était la rue qui faisait son nom, son histoire à elle. »
Alors, Jean-Claude Bouvier, heureusement pour vous que Camille Julien, qui était en effet un très illustre historien des Gaulois, n'a pas été entendu quand il demandait qu'on ne change jamais un vocable de rue, parce que vous n'auriez pas pu faire un livre sur la modification des vocables.
Oui, tout à fait. Mais là, c'est un point de vue qui a été assez souvent énoncé, que celui de Camille Julien. Bon. Et même encore aujourd'hui, surtout dans de petites communes, les petites communes qui restent plus attachés peut-être que les grandes à leur patrimoine locales, et en particulier à leur nom de rue qui disent l'usage et qui rechignent beaucoup à introduire des noms d'hommes politiques ou d'hommes ou d'écrivains ou de fleurs ou d'oiseaux comme le font les grandes villes.
Parce que dans ces conseils municipaux, on craint l'irruption de passions qui puissent déranger un certain consensus.
Je pense qu'il y a de cela, oui. La recherche du consensus est certainement très forte.
C'est dès le XVIIe siècle, en tout cas, qu'on a commencé de pratiquer la dénomination des rues, non pas à partir des traditions, des métiers ou des propriétaires, mais à partir du désir de célébrer tel ou tel, et d'abord au premier rang, au premier chef, c'est le cas de le dire, le souverain.
C'est à ce moment-là que se produit un changement décisif. Les pouvoirs en place, le pouvoir royal et ceux qui le représentent, décident de prendre en main la toponymie et donc de donner des noms qui puissent avoir une valeur symbolique et en particulier renforcer l'autorité royale.
Montréal vient de Mont-Royal, il n'y en a pas seulement au Canada, il y a des Montréal...
Oui. Il y a des villages surtout, des communes qui s'appellent Montréal en France ou des lieux-dits qui sont des monts royaux. Il y a eu des routes royales, des chemins royaux et des rues royales, donc un peu de partout, à Paris bien sûr, mais aussi dans d'autres régions. Et ces noms ont été produits au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, et ils font partie donc de cet ensemble de matériaux à caractère qui chante l'honneur du souverain, qui sont un hommage au souverain.
À Paris, non seulement il y a la rue Royale dans le 8e, mais il y a aussi le boulevard de Port-Royal et la place du Palais Royal,
voilà,
où
tout
est
à fait,
le Conseil d'État.
Il y a une bonne représentation, presque une surreprésentation de la royauté.
Plus la rue Louis-le-Grand, proche de la place Vendôme.
Ouais. Oui, oui.
En somme, nous allons voir les effets de la Révolution. Beaucoup de dénominations ont été préservées. Il n'y a pas seulement le souverain, mais il y a aussi l'ensemble de sa famille, les personnes royales.
Tout à fait. Alors là, on en trouve, et parfois il y a la fille Henri IV, par exemple, qui donne son nom à la rue Christine à Paris.
Et la rue Madame, la rue Monsieur.
Alors, la rue Monsieur, c'est le comte de Provence, le frère de Louis XVI, et qui avait des terrains importants dans le secteur. Donc on retrouve un petit peu ce souvenir des propriétaires de terrains, mais là, à un niveau plus élevé, évidemment. Et puis il y a la rue Madame également, qui est plus récente, elle date... si je me souviens bien, de la fin du 19e siècle, 1877, je crois.
C'est seulement à la fin du 18e siècle qu'on voit apparaître les hommages à des grands écrivains et à des architectes. Ça nous paraît aujourd'hui très familier, mais c'est en fait assez récent.
C'est la deuxième révolution qui se produit. La première, c'était celle qui consistait à décider donc de la création de noms de rue, et pour rendre un hommage à la royauté particulièrement. Et là, alors, c'est un élargissement considérable de l'horizon, puisqu'on décide d'honorer des personnes importantes dans le domaine culturel, le domaine littéraire tout particulièrement, sans qu'il y ait une relation avec l'espace qui est désigné. Donc on va avoir des rues Racine, des rues Molière, des rues Corneille, ou Boileau, etc.
Crébillon,
Rognard. Crébillon, voilà.
Vous dites que la première rue Racine, c'est sur un plan de Chalon-sur-Marne en 1755. Voilà. J'adore vos éruditions.
Oui, ben c'est ce que j'ai trouvé dans une monographie qui a été réalisée sur Chalon. Ces noms de personnes littéraires, d'écrivains, on ne les trouve pas n'importe où, on les trouve à proximité des nouveaux théâtres, à Paris en particulier, et puis à Nantes, également à Marseille, le nouvel opéra de Marseille. Tous ces grands lieux de culture sont construits à peu près à la même époque, dans les dernières années du XVIIIe siècle, avant la Révolution. Ils génèrent donc des noms de rues, d'écrivains, en relation avec ces lieux de théâtre.
Mais tout ça reste finalement très orienté vers la glorification du souverain et de ses proches.
Oui, tout de même.
Ça a duré jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Oui. Beaucoup de noms d'écrivains donnés à des rues, notamment dans les villes ou les villages dont ils sont originaires.
Oui.
Je vais vous faire écouter une archive restituant le jour de l'inauguration de la rue Apollinaire, le 9 novembre 1951. Le journaliste est Jean Rabaud.
Dans ce tronçon de rue sur lequel ne s'ouvre aucune porte, entre la place Saint-Germain-des-Prés et la rue Saint-Benoît, à deux pas du café de Flore, du Montana et du Lip, il y avait une centaine de fidèles de tous les âges ou à peu près. L'actuelle génération des caves était peut-être la seule à manquer. Je n'ai vu qu'une jeune personne en pantalon noir, blouson noir et corsage vert. Mais les anciens étaient au rendez-vous. Il y avait les lustrés et les râpés, ceux qui sont arrivés et ceux qui se sont arrêtés en route. Francis Carco, un pli très profond dans ses joues épaisses, Louis de Gonzasfric tout blanc, Fujita, mèche sur le front, lunettes rondes, Francis Poulenc, Gaston Gallimard, Paul Léoto était en uniforme de Paul Léoto. Pantalon beige sans forme, écharpe jaune crue, canne mince, lunettes de fer, rictus voltairien, turban marron surmonté d'un chapeau voyage. Il y avait là aussi, bien entendu, Madame Jacqueline Apollinaire, la jolie rousse, dont Pierre Fresnay redit les vers.
Elle vient et m'attire ainsi qu'un fer l'aimant. Elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse. Ses cheveux sont d'or, on dirait, un bel éclair qui durerait. Ou ces flammes qui se pavanent dans les rosetés qui se fanent. Mais riez, riez de moi, hommes de partout, surtout gens d'ici. Car il y a tant de choses que je n'ose vous dire. Tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire. Ayez pitié de moi.
Monsieur Pierre de Gaulle dévoila la plaque après avoir rendu l'hommage du conseil municipal au poète qui chanta le pont Mirabeau, la rue Saint-Merry et aussi les villes rhénanes, Londres, l'Italie et Amsterdam. Monsieur André Billy parla au nom des amis de Guillaume.
Je ne dirais pas qu'il existe un Paris d'Apollinaire comme il existe un Paris de Balzac, de Victor Hugo, de Baudelaire. Mais il est certain qu'Apollinaire avait de Paris une vision très personnelle, où la fantaisie entrait pour une large part, comme elle entrait dans sa vie, comme elle entrait dans ses idées, et dans ce qu'on peut bien appeler sa philosophie.
La cérémonie terminée, on continue de causer sur les trottoirs.
Voilà une cérémonie qui s'inscrit tout droit dans la tradition du XVIIIe siècle.
Au XVIIIe siècle, ce sont les débuts de la commémoration, dans les dernières années de l'Ancien Régime, avec la promotion des toponymes représentant des hommes de culture. Alors, cela s'est développé encore plus au XXe siècle, et on le voit avec Apollinaire. Bon, beaucoup de noms de villes ont choisi des noms d'écrivains, d'artistes, de toutes sortes, pour éviter parfois des hommes politiques qui pourraient poser des problèmes et qui créeraient peut-être des dissensions à l'intérieur de la population.
Les édiles sont présents. Le Pierre de Gaulle, qui voilà, est évoqué dans cet archive, c'est le frère, du général de Gaulle, qui était président du RPF, du conseil municipal. Et en prime, vous avez eu Pierre Fresnay lisant Apollinaire, ce qui ne peut pas être désagréable. Je voudrais maintenant que nous en venions à la Révolution française, qui est le premier grand moment un peu spasmodique où il faut s'interroger sur la dialectique des ruptures et des continuités.
Tout à fait. Alors la Révolution, c'est une période qui m'a passionné de ce point de vue-là, parce que il y a une productivité toponymique considérable. Jamais on a eu autant d'imagination, je crois, pour créer des noms de rues.
Pour créer, pour refuser aussi.
Pour créer, pour refuser, parce que la création s'est faite à partir de destruction des noms anciens, et il y a un mouvement considérable. Je parle de rupture et continuité, parce que, bon, il est vrai que c'est une rupture avec l'Ancien Régime. On enlève les noms qui rappellent la royauté pour les remplacer par des noms à caractère révolutionnaire. Mais en même temps, il y a une continuité avec cette dernière période de l'Ancien Régime dont je parlais, c'est-à-dire la commémoration qui avait commencé à se faire et qui était liée au temps plus qu'à l'espace et qui exprimait des valeurs symboliques, elle va s'épanouir. Cette commémoration, elle va s'épanouir sous la Révolution avec des noms très symboliques dont on peut discuter l'intérêt ou la valeur, mais qui sont incontestables.
Par exemple,
et cela annonce la période actuelle.
Par exemple, les abstractions aussi, liberté, égalité.
Oui, là, ce sont des mots que l'on continue évidemment à employer.
Oui, je lis que à Bordeaux, la place Royale devient la place de la liberté,
oui.
Qu'à Lyon, la place Louis-le-Grand devient la place de la fédération, puis la place de l'égalité.
Tout à fait, oui.
Qu'à Nancy, la place royale devient la place du peuple et que Stanislas cède sa place à la renommée. Puis il y a la place, bien sûr, à Paris, Louis XV, qui devient en 92 la place de la Révolution et en 95 la place de la Concorde. Là, on va vers du plus tendre, après tant de guillotiner sur cette place.
Oui, oui, oui.
C'est le moment aussi, d'ailleurs, où les noms de villes eux-mêmes sont transformés, où Grenoble devient Grelibre.
Tout à fait.
Et où Saint-Symphorien devient Forien.
Voilà.
Parce qu'on enlève le Saint dans l'intitulé de beaucoup de rues.
On a, déchristianisé le plus possible la toponymie, en enlevant ce qui était le plus simple, le nom du saint, enfin l'attribut de la sainteté. Donc la rue Saint-François devient la rue François, la Saint-Jacques devient la rue Jacques. Parfois, on met, comme ça s'est produit sous la Révolution, le mot ci-devant, devant le saint, ou parfois, on le fait disparaître purement et simplement pour le remplacer par un autre nom.
Alors, les noms de personnes, les individus qui émergent aussi en grand nombre sous la Révolution, quels sont-ils ?
Alors, ces noms de personnes, ce sont des noms à caractère symbolique, là aussi. Ce sont souvent des noms de l'Antiquité, et la Révolution a été très sensible à la République romaine. Alors, on a un certain nombre de noms, comme les Gracchus, par exemple, des rues Gracchus, qui est le plus connu des Gracques, qui était un tribun du peuple, adversaire de la noblesse, et c'est pour cela qu'il est choisi. On a également une rue Brutus, la rue Brutus.
C'est l'homme qui a assassiné César.
Celui qui a assassiné César. On a d'autres noms comme Saint-Sinatus, bon, etc. Ou bien des noms de philosophes anciens comme Socrate, par exemple, grec. Et puis on a aussi, bien entendu, les noms des précurseurs présumés de la Révolution. Donc Voltaire et Rousseau qui commencent à apparaître dans les noms de rue, puis qui seront repris plus tard par la Troisième République, très
Voltaire,
souvent.
C'est surtout sous la Troisième République, je crois.
Oui, Voltaire, sous la Troisième République, mais on le trouve déjà quand même en 1792 au Havre, ou bien à Montpellier, sous la Révolution, à Toulouse, dans l'an 2 également. Donc Rousseau aura certainement plus de succès. Marat, lui, a donné son nom à des villes aussi, à beaucoup de communes en France. Et après son assassinat par Charlotte Corday, il y aura très vite, dans 93 et en 94 surtout, des rues Marat un petit peu partout. Bon, c'est l'un des rares héros de la Révolution qui aura son nom à cette époque-là. Les Danton et Robespierre auront des noms de rues, mais plus tard, sous la Troisième République essentiellement.
Il reste assez peu de rues Marat aujourd'hui, de même qu'on a retiré ses cendres du Panthéon après l'y avoir installé.
Exactement, oui. Je crois qu'actuellement, il y a très très peu de rues Marat.
Qu'est-ce qui nous reste de la toponymie révolutionnaire, Jean-Claude Bouvier ?
Eh bien, il nous reste peut-être peu de désignations. Bon, certaines ont traversé les temps, comme liberté, égalité, fraternité, qui ont été reprises, on en reparlera peut-être, sous la Troisième République, mais la plupart ont disparu. Bon, la rue des Sans-Culottes, par exemple, on ne la trouvera plus. La rue du Saïra, qui a été donnée, le champ révolutionnaire.
Même Sava, j'ai vu, il y a une rue Sava.
À Marseille, le Saïra est devenu Sava, qui était plus présent et peut-être plus optimiste. C'est la Révolution aujourd'hui et non pas demain. Mais ce qui en reste, c'est ce que je disais, c'est l'esprit surtout de la création toponymique révolutionnaire, c'est-à-dire cette volonté de commémorer des personnages ou des événements jugés importants de l'histoire et qui sont porteurs de valeurs morales ou de valeurs politiques très fortes. Et cette commémoration qui a un lien avec le temps et avec le symbole, et non plus avec l'espace, c'est ce qui caractérise la toponymie aujourd'hui, et on peut dire que c'est la Révolution, même si ça a commencé à se faire un tout petit peu avant la Révolution, c'est la Révolution qui a mis tout cela en place.
Le champ est ouvert, il est encore immense, voilà. Aujourd'hui,
oui.
Avec cette rupture. Il y a un autre moment qui a été intéressant dans certaines communes en particulier, qui avaient été très longuement communistes,
oui.
Et après la chute du mur, lorsque des
oui.
municipalités de droite sont arrivées aux commandes, il y a eu des changements assez brutaux de dénomination des rues. Écoutez cette archive assez éclairante du 3 avril 1997. Nous allons entendre le maire RPR, Philippe Pemzec, qui a détrôné après plusieurs décennies les communistes et qui s'exprime de la sorte.
C'est vrai que cette ville, avant 89, venait de subir 43 ans de communisme, dont 17 ans de stalinisme le plus pur et dur. Et je crois qu'il convenait de débarrasser cette ville de la chape de plomb qui pesait sur elle. Et donc nous avons décidé de la débarrasser de toutes les scories qui l'envahissaient. Et donc de renouer avec l'histoire, la tradition de cette ville tout simplement, et de redonner aux rues des noms qu'elles avaient autrefois, qui étaient des noms tout à fait charmants, tout à fait bucoliques. Et puis il s'agissait aussi de débarrasser certaines rues de noms d'hommes politiques qui n'avaient rien à voir avec l'histoire de la ville et dont le passé était quelquefois, de mon point de vue en tout cas, particulièrement douteux.
Vous dites débarrassé, c'est quand même un mot très fort, parce que ces gens ont été installés par des gens qui habitent encore le Plessis.
Oui, mais je crois que ma détermination à faire le procès du communisme était aussi fort que l'envie de mes adversaires de faire du communisme quelque chose d'idéal, qui en fait est loin d'être idéal. Donc je crois que c'était important parce que je crois qu'il y a une symbolique très forte dans les noms de rue. Et donc moi je voulais un peu pacifier cette ville, la dépolitiser surtout.
Et enfin vous l'avez repolitisée dans un autre sens.
Non, parce qu'à part l'avenue Jacques Duclos, qui a repris le nom de Charles de Gaulle, qui aujourd'hui d'ailleurs vanté même par les communistes, toutes les rues que nous avons débaptisées ont retrouvé des noms de personnages qui ont enrichi notre histoire, ou tout simplement de fleurs, de plantes. Et donc je crois que nous avons, en ce sens-là, débarrassé notre ville et surtout dépolitisé notre ville.
Oui, alors la journaliste Jean-Claude Bouvier explique que même en donnant des noms tirés de la faune et de la flore aux rues, pour les débaptiser, on fait quand même de la politique contre la politique. On est au cœur là, des conflits de grande portée.
Il y a deux choses qui sont mêlées. Il y a le fait qu'une commune a parfois envie de ne conserver que les noms qui ont un rapport avec l'histoire de la ville, et c'est une tendance qu'on peut trouver. Et puis, il y a surtout ce qu'on peut appeler une forme d'épuration toponymique. Il a employé le mot « débarrasser », qui n'est pas très loin d'épurer. Alors ça fait penser à des temps un peu douloureux, comme le régime de Vichy, par exemple. Bon, sous Vichy, il y a eu ce qu'on peut appeler une véritable épuration toponymique. Les noms jugés trop engagés, tout simplement républicains, ont été enlevés pour être remplacés par des noms en hommage au nouveau régime et au maréchal. Donc.
Il y avait déjà eu à Paris, je crois, en 1900.
Oui.
En 1929,
il y avait une rue du maréchal Pétain déjà à Paris.
Mais alors là, à partir de juillet 40,
c'est autre chose.
Il y a des flottes.
C'est un peu le retour de l'ancien régime, d'un certain point de vue. C'est l'hommage au souverain que l'on retrouve avec Vichy. Donc le nom du maréchal est donné à beaucoup de rues, et évidemment d'une façon très symbolique, ce sont des noms à caractère républicain, comme la rue de la République d'abord, qui est remplacée par la rue du maréchal Pétain ou l'avenue. Ce sont parfois la rue nationale qui est devenue rue maréchal Pétain, mais pour le mot national, c'est très compliqué, parce que le mot national a été repris par le régime de Vichy.
La Révolution nationale.
La Révolution nationale. Et donc, on a ces deux emplois. Il y a le national républicain qui s'était développé surtout pendant la Révolution de 1848, et après, sous la Troisième République, et puis le national de Pétain. Beaucoup de villes donc ont ces changements. Parfois, c'est tout le personnel républicain qui est remplacé. Les Jaurès, Victor Hugo, etc., tendent à être remplacés, mais pas toujours. Il y a des résistances.
C'est une hécatombe quand même. Plus de Combes, plus de Louis Blanc, plus de Salengro, naturellement, plus de Francis de Pressensé. Et tout naturellement, quand il s'agit de noms juifs, par exemple boulevard Gaston Crémieux, à Marseille, on raye.
À Marseille, c'est 18 substitutions qui se produisent, ce qui est considérable. La rue Jules Guesde qui disparaît, Crémieux, la rue Armand Bédaride, qui était un franc-maçon, le Conseil de l'Ordre du Grand Orient, qui est remplacé, la place Jean Jaurès, etc., qui redevient la place Saint-Michel. Donc, c'est extrêmement général. Mais dans certains cas, c'est un peu différent aussi.
Beaucoup de militaires, beaucoup de héros militaires, Mermoz, Guillaumet. On revient aux guerres de Napoléon, guerre de 14, Lyautey, Sidi Ibrahim, etc. Et puis naturellement, beaucoup de Jeanne d'Arc, la pauvre.
Beaucoup de Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc a été mise à contribution très fortement. Il y a eu beaucoup de noms de rue de Jeanne d'Arc.
C'est l'époque où Jeanne d'Arc a été le plus tirée vers la droite.
Tout à fait, oui. Absolument.
Elle a servi à tant de causes diverses.
Oui.
Et en même temps, on censure Émile Combes, on censure Zola.
On censure Zola.
Un peu partout.
Et ce qui est amusant, c'est à Aix-en-Provence, où il y avait une rue François-Émile Zola, parce que François était le père de Zola.
Ingénieur,
qui a fait un barrage, que l'on voit encore actuellement. Et la rue François-Émile Zola est devenue la rue François Zola, tout simplement. Mais avant la fin de la guerre, on a quand même rétabli le fils Émile Zola.
Eh bien, après tant de rues dont le nom a été chamboulé, en voici une qui n'en a pas. Fréhel, 1935.
Dans la petite rue, les vieilles maisons cachent le ciel par leurs toitures. on ne reconnaît les saisons qu'aux légumes des petites voitures. Dans cette rue sale, les centre-foires, les moineaux, les gosses, tout ça pioille, ce qu'on peut s'y amuser pour voir. J'étais l'aîné de toute une marmaille. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventures. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les gosses dansent en rond. Le soir, on joue de l'accordéon. Dans la rue sans nom. Dans un coin noir, un joli blond m'avait embrassé par surprise. J'étais contente de cette leçon, la leçon d'amour, je l'ai bien comprise. Il ne m'a pas fallu plus de temps pour apprendre l'art de la toilette. J'avais tout juste 15 printemps et toute la rue perdait la tête. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventure. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les gosses dansent en rond. Le soir, on joue de l'accordéon.
Jean-Claude Bouvier, la rue sans nom. Si les rues étaient sans nom, votre livre, ce serait tragique, n'aurait pas de raison d'être.
Oui, cela existe. J'en ai trouvé une, je ne sais plus où. Enfin, dans une commune, je n'en parle pas dans le livre, mais il y a une commune qui a une rue sans nom. Parce que,
l'esprit un peu paradoxal.
Voilà, on n'a pas su trop quel nom lui donner.
Je voudrais que nous en venions au Panthéon républicain. Il y a beaucoup à lire à cet égard dans les noms de rues. Je crois que vous avez trouvé une sorte de liste et puis déterminer un palmarès des premiers héros de la République, entre guillemets, oui. Grâce à la Poste.
C'est ce que j'appelle le Panthéon républicain, et grâce à la Poste, précisément, j'ai pu établir la liste de ceux qui sont les plus souvent présents dans les noms des rues. Eh bien, le premier, ça ne surprendra pas, c'est le général de Gaulle. Alors évidemment, il n'est pas simplement héros républicain. J'explique, de Gaulle, c'est beaucoup plus complexe. C'est à la fois le sauveur de la patrie, c'est comme Jeanne d'Arc. C'est à la fois un républicain qui a quand même créé une république, la cinquième du nom. Et puis, c'est aussi un chef de parti. Donc il combine un peu tout cela, bien entendu.
Près de 4000 attestations.
Mais il a, oui, la Poste me donne 3736, ce qui est pas mal. Évidemment, on dira que c'est peu par rapport aux 37 000, ou près de 37 000 communes françaises. Mais c'est le dixième, mais bon, il y a beaucoup de petites communes. Mais enfin, c'est considérable.
Le second ?
Alors, le second, c'est Pasteur. Pasteur, qui est à 3100, qui n'est pas très loin de De Gaulle. Ensuite, Victor Hugo, qui est à 2477. Et puis,
parce qu'il a incarné, finalement, l'un et l'autre ont incarné la Troisième République commençante, l'ordre républicain après les révolutions.
Là, on arrive à une espèce de noyau, ce que j'appelle un noyau dur républicain, qui est composé de Gaulle, mais Pasteur, Hugo, Jaurès, qui ont incarné la République et qui ont été célébrés surtout dans les débuts de la Troisième République.
Mais Jaurès, c'est surtout dans l'entre-deux-guerres.
Jaurès étant l'entre-deux-guerres, évidemment, à partir de sa mort.
En juillet 14.
Et là, Jaurès, c'est un phénomène qui m'a étonné. Enfin, il est quatrième dans le classement. Et on le trouve dans toutes sortes de communes, alors que Jaurès, représente quand même une idéologie politique précise, le socialisme. Ce qui est le plus étonnant, c'est dès la guerre de 14. À Paris, par exemple, l'avenue Jaurès, qui remplace d'une façon très symbolique la rue d'Allemagne, l'avenue d'Allemagne, a été créée pendant la guerre de 14. Et alors, après la guerre, évidemment, surtout, on en aura beaucoup. Et puis après, à partir de son entrée au Panthéon, bien entendu.
Alors, décroché.
Et alors, après, il y a un petit décrochage, effectivement. On arrive à Jules Ferry, qui a quand même 1300 noms. Lamartine, Clémenceau, Zola.
Un millier, Clémenceau. Zola,
un millier. Zola, qui arrive à un millier aussi.
Talonne, Clémenceau.
Oui, bon, il y a très peu de différence. Voltaire, qui est un peu en dessous de la barre des 1000, 988. Et puis Briand, Aricène Briand. Carnot, c'est plus compliqué parce qu'il y a deux Carnot.
Il y en avait même trois, si on prend Hippolyte, le ministre de la Seconde République. Mais enfin, en gros, c'est le premier, Lazare Carnot.
C'est Lazare Carnot et Sadi Carnot.
L'organisateur de la victoire et le président de la République.
Alors très souvent, on ne sait pas trop quel Carnot est honoré, parce qu'il y a des rues ou des boulevards Carnot. Donc il peut valoir pour l'un, pour l'autre, ou souvent pour les deux. Et puis il y a des communes qui ont une rue Lazare Carnot, une rue Sadi Carnot, donc ou rue Président Carnot, c'est plus clair.
Avantage et ambiguïté des dynasties républicaines.
Voilà. Mais enfin, Carnot, le grand Carnot, Lazare, est quand même bien représenté. Il arrive à la 12e place. Après, on a Anatole France, 13e, 14e Rousseau, 15e Roger Salengro, du Front Populaire, qui a eu un très grand succès toponymique et... Très tôt, d'ailleurs, peu de temps après son suicide.
Il était ministre de l'Intérieur.
Il
s'est donné la mort sous l'effet de calomnies horribles.
Sous l'effet de calomnies horribles.
De l'extrême droite.
Et donc, là aussi, cela a frappé l'opinion, comme beaucoup de morts brutales. Là, j'en parle, les morts brutales, qu'elles soient des assassinats ou bien des suicides ou d'autres cas encore, frappent l'opinion et cela produit très souvent une entrée en toponymie assez rapide. Après Salengro, on a Jean Monnet. Alors là, c'est une autre époque, c'est l'Europe.
C'est plus consensuel. Et très récent, évidemment.
Léon Blum, tout de même. Mendès France. Et Mendès France aussi, cela peut surprendre, parce qu'il a été très critiqué, très vilipendé. Il a fait l'objet d'attaques de différents côtés et d'attaques antisémites en particulier. Malgré tout, il arrive à la 18e place.
Ou peut-être à cause de cela.
Parce que les
municipalités... Enfin, c'est surtout pour caractère emblématique d'une certaine idée de la morale en politique.
Voilà, c'est l'idée de la morale en politique, je pense. François Mitterrand, qui arrive en 19e position. Et puis Thiers.
Alors ça, c'est plus curieux.
Le rapprochement des deux est un peu surprenant. Mais...
Thiers, c'est à la fois celui qui a réussi à, qui d'une certaine façon a fondé la Troisième République, mais c'est aussi celui qui a écrasé dans le sang la Commune.
Voilà.
Et pourtant, il y a une rue Thiers à Paris.
Oui, mais il y a des rues Thiers qui ont été débaptisées un peu partout en France à cause de cela, à cause de ce souvenir du rôle qu'il a joué dans l'écrasement de la Commune. Mais c'est assez récent, depuis une vingtaine d'années à peu près, un certain nombre de communes ont enlevé le nom de Thiers et l'ont remplacé par un autre, plus consensuel.
Il y a beaucoup de va-et-vient, y compris sous la Troisième République. Je me souviens avoir acheté dans une brocante de Lille-sur-la-Sorgue une plaque de rue consacrée à Édouard Daladier, avec écrit sous son nom « Homme d'État, 30 septembre 1938 ». C'est-à-dire Munich, bien entendu.
Je pense que
c'est une plaque qui a dû être ensuite enlevée. Et puis il y a des cas qu'on peut évoquer aussi où les rues deviennent, y compris à Paris, des sujets de discorde grave. Par exemple, on ne sait pas toujours que la municipalité parisienne est passée définitivement à droite, enfin définitivement jusqu'à Delanoë, en 1911, sur une affaire de rue. Vous voyez jusqu'où pousse la passion. Parce qu'on a débattu pour savoir si on donnerait le nom d'un anarchiste espagnol, Ferrer, qui venait d'être garrotté en Espagne. Ouais. Et le centre-gauche radical s'est séparé de l'extrême-gauche pour rejoindre la droite. Et ça a créé ce basculement. Donc, ce n'est pas seulement un plaisir d'érudition de raconter cette histoire. Non, j'ai pas besoin de vous en persuader, Jean-Claude Bouvier.
Non, mais il y a des enjeux politiques considérables.
Vos études statistiques vous amènent, j'imagine, à dessiner une cartographie des noms de rues, hein, nord, sud, est, ouest.
Ce n'est peut-être pas très significatif pour les plus grands noms. Bon, Hugo, par exemple, est un peu partout, sauf que tout de même, il n'est pas partout. Et là, il est intéressant de savoir pourquoi il ne se trouve pas dans certaines communes, par exemple. Si l'on prend des personnages plus anciens comme Henri IV, par exemple, on se rend compte qu'il est très présent dans le sud-ouest, comme on peut s'y attendre, et dans son Béarn natal, qu'il est pratiquement absent dans le sud-est, qui est une région pourtant royaliste, mais Henri IV n'est pas vraiment la personne honorée. Charlemagne, comme on peut s'y attendre, est beaucoup plus présent dans l'est de la France que dans la moitié ouest, etc. Et puis il y a le Midi Rouge, par exemple, qui a conservé le souvenir de rue de la Révolution, de place de la Révolution, beaucoup plus qu'ailleurs.
Et de personnages emblématiques aussi.
Et de personnages emblématiques également. des grands révolutionnaires, par exemple, à Montpellier, qui sont arrivés surtout avec le bicentenaire de la Révolution. Après 1989, il y a eu tout un mouvement de création toponymique, et Montpellier, par exemple, a complété sa panoplie révolutionnaire.
Sous l'autorité déterminée du maire Georges Frêche.
Voilà, exactement.
Parmi ces moments de rupture, nous avons évoqué Vichy, la libération est assez emblématique. En particulier lorsqu'on a vu ressurgir les noms d'un certain nombre de personnages qui avaient été les victimes de l'oppression du régime de Vichy, en voilà. Particulier. Les Jean Zay, les Georges Mandel à Paris. Oui. Et puis c'est le moment où on crée une rue Marx-Dormois à Paris. Je vais vous donner écho de la cérémonie qui s'est tenue le 18 octobre 1945.
Dans ce quartier populaire de Paris, dans ce quartier qui a connu la guerre, dans le 18e arrondissement, au coin de la rue de la Chapelle et du boulevard Barbès, aujourd'hui, M. Le Troquet, président du conseil municipal, accompagné de M. Léon Blum, président du Parti Socialiste, débaptise la rue de la Chapelle pour lui donner le nom de la rue Marx-Dormois. Alors que lentement, la nuit tombe sur ce quartier de Paris, M. Léon Blum donne l'accolade à Jeanne Dormois, la sœur de l'ex-ministre de l'Intérieur, assassinée sauvagement en 1941 par les hommes à la solde de la Gestapo.
La parole est à Léon Blum.
Il est l'homme qui, ministre de l'Intérieur, s'est efforcé, malgré tous les obstacles, toutes les résistances, et tous les sarcasmes qui sont quelquefois dans notre France et dans notre Paris, ce qu'il y a de plus difficile à surmonter, de jeter la pleine lumière sur cette affaire de la cagoule dont les événements devaient démontrer plus tard toute la dramatique importance et qui devait révéler que l'égoïsme et la haine de classe ont pu pousser quelques Français jusqu'au crime et jusqu'à la trahison.
Il s'agissait donc bien de Marx, pas Max, Marx, Dormois, une famille déjà assez typé politiquement.
Tout à fait.
Et c'est le successeur de Roger Salengro. Le document dit qu'il a été tué par des gens à la solde de la Gestapo. En fait, ce sont par des Français de la
cagoule. Oui, c'était la cagoule, oui.
Qu'il a combattu.
Oui, oui, à Montélimar, oui, dans la Drôme.
Il y a en même temps une sorte de rythme à restituer de la mémoire, des va-et-vient, le temps qu'il faut parfois pour qu'émergent des noms ou qu'au contraire, ils soient... Il soit rayé, il soit voué aux gémonies. Oui. Je voudrais que vous évoquiez le cas que je trouve éclairant d'Alexis Carrel.
Alexis Carrel, il y a eu un certain nombre de rues d'Alexis Carrel qui ont été créées après la guerre. Et puis, on s'est rendu compte qu'Alexis Carrel n'était peut-être pas tout à fait celui que l'on croyait.
On croyait quoi ? C'était un prix Nobel ?
Enfin, c'est un prix Nobel, quand même, de médecine, qui a, en 1912, il avait fait des travaux sur les tissus humains et les transplantations d'organes, donc qui avait un bel avenir devant eux. Et puis, il a écrit un livre qui a été un vrai best-seller en 1935, « L'homme s'est inconnu ».
Quelle était la thématique ?
Alors, la thématique de « L'homme s'est inconnu », c'était une espèce de glorification de l'être humain. Mais en même temps, ce que l'on n'avait pas vu, et ce qui est surtout dans les derniers chapitres, c'est que Alexis Carrel glorifiait l'eugénisme. C'est l'un des défenseurs de l'eugénisme. Et 35, c'est peu de temps après l'arrivée d'Hitler quand même au pouvoir. Et puis, il annonçait même carrément des camps d'extermination. Et, je le cite, « établissement euthanasique pourvu de gaz appropriés, qui était pour les fous et les criminels. Toutes sortes de fous et de criminels. » Il semble que l'on n'avait pas lu le livre jusqu'au bout, parce qu'on aurait eu, je pense, une autre idée d'Alexis Carrel. Et puis après, bon, pendant la guerre, il a été membre du Parti populaire français de Doriot, le PPF. Et malgré cela, eh bien, on l'a honoré longtemps, enfin après sa mort. Il est mort après la guerre, et après sa mort, on l'a honoré dans beaucoup de villes, à Lyon, dont il est originaire, enfin Sainte-Foy-lès-Lyon, en 1957, à Marseille en 65, à Paris en 74, donc ce n'est pas
c'est
très
tout
ancien,
récent, oui.
C'est assez récent.
On n'avait toujours pas lu à Paris, l'homme s'est inconnu.
Je ne sais pas si on l'avait pas lu, mais on avait cru bon de l'honorer tout de même. Et depuis cette époque, il y a eu, enfin depuis les années 90 surtout, 1990, donc c'est assez récent, il y a eu des batailles qui ont été souvent victorieuses, mais pas toujours, pour changer ce nom. Alors à Paris, bon, c'était une petite rue, mais malgré tout, il y a eu une bataille assez longue. Les demandes ont été rejetées d'abord en 94, en 96, et c'est en 2002 simplement que la municipalité actuelle a accepté de supprimer le nom d'Alexis Carrel et l'a remplacé par le nom du résistant Jean-Pierre Bloch.
Vous avez le sentiment que là, on peut distinguer une opposition gauche-droite ?
C'est probablement ce qui s'est passé, mais ailleurs, peut-être pas. À Lyon, c'est beaucoup plus récent. C'est le 7 janvier 2006 qu'Alexis Carrel a dû céder la place dans sa ville natale.
Municipalité également socialiste.
Oui, municipalité socialiste également, donc c'est quand même pas un hasard. Il a cédé la place à une grande résistance, Bertie Albrecht. Mais à Marseille, ce n'est pas encore fait. Il y a une demande d'organisation, l'Union des Juifs de France a demandé que le nom de la rue Alexis Carrel soit remplacé par le nom de rue des Justes. Ça n'est pas encore accepté.
Transmis à M. Gaudin.
Oui.
Vous signalez d'autres cas, d'autres solutions qui sont assez piquantes, puisqu'à oui. Dole, dans Franche-Comté, oui. La rue Alexis Carrel est devenue habilement la rue
Armand Carrel.
Armand Carrel, c'était un grand leader des républicains sous la monarchie de Juillet, qui a été tué en duel par Émile de Girardin.
Voilà, c'est cela.
Alors c'est du A. Carrel, oui.
C'est du A. Carrel, donc.
À Saint-Brieuc, la rue.
Ambigu, mais...
À Saint-Brieuc, la rue est devenue Anne-Franck.
Anne-Franck, oui.
Donc à vous entendre, Jean-Claude Bouvier, on peut conclure sur une certaine incertitude, à certains égards. Les passions demeurent, la symbolique, combat des symboliques demeure aigu. Mm-hmm. Et puis peut-être, à d'autres égards, peut-on discerner une certaine euphémisation des affrontements. Par exemple, avec l'émergence des grands sportifs, là, ça divise oui. moins. C'est assez curieux, je vais vous faire écouter une archive sur la naissance, le baptême d'une rue Raymond Poulidor dans son village natal. Ça remonte à décembre 1976.
Raymond Poulidor, enfin consacré, l'éternel second, cette fois-ci n'a personne devant lui sur la petite plaque qui a été apposée aujourd'hui à l'entrée d'une rue d'un village de la Creuse, Sauviat-sur-Vige. Il n'y a qu'un seul nom, le sien. Et oui, vous m'avez bien compris. Poupou, le cycliste le plus cher au cœur des Français, a reçu aujourd'hui une consécration que beaucoup lui envieraient. On a donné son nom à une des rues du village de son enfance. On comprend alors l'émotion de Poupou lorsque Jean Mamère de FR3 Limoges l'a rencontré après la cérémonie.
C'est plus qu'un honneur, mais pour moi, disons que ce n'est pas un honneur habituel, car c'est une rue que j'ai empruntée lorsque j'avais 5-6 ans, que je me rendais à l'école... Tous les jours, je parcourais 3 km le matin, 3 km l'après-midi, en sabots, car en ce moment, c'était les sabots qui étaient, disons, à la mode. Et aujourd'hui, 10 ans que j'ai 6 ans.
Pour un Raymond Poulidor qui vient d'être élu au comité directeur de la Fédération cycliste, c'est plus que l'évocation de souvenirs, c'est la consécration d'une carrière.
La consécration, cette élection, aujourd'hui je n'y pense pas trop. Ce qui me touche le plus, c'est l'inauguration de cette avenue, de cette rue Raymond Poulidor. Et je vous assure que c'est une rue que j'emprunte encore beaucoup lorsque je m'entraîne. Et vous savez, lorsque je l'emprunterai maintenant, j'aurai un regard à droite et un regard à gauche sur cette plaque Raymond Poulidor.
C'est un cas où on a violé la règle qui est oui. devenue assez générale depuis la Troisième République, comme quoi on attendait que les gens soient morts pour donner leur nom à une artère d'une ville ou d'un village.
Oui, il y a peu de personnages qui dérogent à la règle. Ce sont les plus grands, comme le général de Gaulle, par exemple, qui a été célébré avant sa mort et parfois dès 45. Il a souvent évité cela. Enfin, il avait demandé que l'on ne donne pas son nom à des rues. Malgré tout, cela a été fait dans un certain nombre de cas. Cela étant dit, les cyclistes ne sont pas tellement représentés malgré tout.
Il n'y a pas de rue Zidane.
Les grands sportifs, d'une façon générale,
pas de
ne sont pas tellement représentés. Et ça m'a frappé.
Victor Hugo aussi avait vu son nom donné à l'avenue où d'ailleurs il habitait,
sûr,
de son
Paris, vivant,
ce qui
oui.
fait qu'on pouvait lui écrire « Monsieur Victor Hugo » en son avenue.
En son avenue,
c'était
voilà,
assez
déjà.
Chic.
Oui, oui.
Toujours dans ce sens du consensus, On voit beaucoup de municipalités choisir les noms de personnalités étrangères lorsqu'elles ont eu un destin tragique. Nous sommes ici à la maison de Radio France, quai du président Kennedy.
Voilà. Les personnalités étrangères, comme le président Kennedy, ou bien Salvador Allende, qui l'un et l'autre ont été tués.
Donc, après le coup d'État du 11 septembre 1973.
Voilà, donc, ils ont disparu dans des conditions tragiques. Et c'est l'une des raisons, très souvent, qui font que l'on rend un hommage toponymique très, très appuyé. Nelson Mandela, également. Et lui, encore, c'est d'autant
vivant.
Plus étonnant qu'il est vivant. Lech Walesa, bon, hein, par exemple, le fondateur de Solidarność, qui a un certain nombre de rues.
50 rues ouais. Qui portent le nom de Nelson Mandela.
Mais oui.
Walesa, moins.
Ce qui est important, tout de même. Hein. Bon, ce consensus, il est très recherché par les municipalités, et cela explique aussi que l'Europe est un certain succès en toponymie. Les avenues de l'Europe,
les rues européennes
de l'Europe, d'abord, sont très, très, très nombreuses, et ce sont très souvent les voies les plus importantes qui sont appelées ainsi, ou bien des endroits à valeur symbolique, comme les ponts, par exemple, le pont de l'Europe à Strasbourg, mais aussi ailleurs.
À Strasbourg, ça s'imposait.
Oui, des carrefours de l'Europe qui sont ici ou là.
Robert Schuman, l'homme de la CK.
Et puis les grands Européens, comme Robert Schuman, comme Jean Monnet en particulier, qui, l'un et l'autre, ont pas mal de noms de rues.
Il y a un microclimat qui est celui de Vitrolles, qui a été à un moment donné aux mains du Front National.
C'est un mouvement qui fait penser un peu à Vichy. Bon, ça a moins d'ampleur que la période de Vichy.
En microcosme, en effet.
Mais c'est un microcosme. Alors, ce ne sont pas les noms républicains qui ont été changés à Vitrolles, parce qu'on peut considérer que la municipalité Front National a certainement considéré qu'ils étaient trop solidement implantés, mais ce sont les noms plus récents. Enfin, il y a Mitterrand, par exemple, bien sûr, le président Mitterrand qui a disparu, l'avenue qui va redevenir l'avenue de Marseille, ce qu'elle était avant. Et puis, ce sont les noms aussi de personnes, et ce n'est pas un hasard, c'est très symbolique également. Le nom d'étrangers, surtout, comme le square Lucie September, qui était une militante anti-apartheid, qui a été remplacée par le Bachaga Boualem, donc l'Algérie française. Le square Olof Palme, le ministre suédois.
Le premier ministre suédois assassiné.
Premier ministre suédois assassiné.
Social-démocrate.
Qui a été remplacé par Saint-Exupéry. Donc un aviateur, et là encore, on cherche quelqu'un qui soit consensuel et qui ne soit pas marqué politiquement. Et puis voilà, il y a Jean-Marie Tjibaou, par exemple, qui est devenu l'avenue Jean-Pierre Stibois, qui est l'un des...
Stibois qui était un des leaders du Front
National. Stibois qui était l'un des leaders du Front National.
Qui est mort dans un accident
d'automobile. Salvador Allende est remplacé par l'avenue Mère Teresa. Ce qui m'a frappé, c'est de voir que même si on ne peut pas comparer du tout cela à Vichy, enfin le climat général n'est pas le même, le contexte n'est pas le même, et l'ampleur n'est pas la même non plus, il y a tout de même des procédés semblables. On cherche des noms de gens ayant un caractère humanitaire, comme la mère Teresa, ou bien des noms locaux, ou bien des noms de personnes comme des aviateurs, Saint-Exupéry.
Hermoz aussi, qui avait été proche colonel de Larocque.
Voilà, voilà. Tout cela fait penser un petit peu à Vichy, un recentrage sur des valeurs très françaises et des valeurs d'Algérie française. Tout particulièrement.
Eh bien, merci Jean-Claude Bouvier de nous avoir permis de faire ce grand voyage de ville en ville, de rue en rue, de boulevard en boulevard. Votre livre s'intitule « Les noms de rue disent la ville », paru aux éditions Christine Bonneton. Je signale aussi que vous avez organisé avec Jean-Marie Guillon un colloque il y a quelques années sur ce thème. Vous avez été un des premiers à vous y intéresser. « La toponymie urbaine, signification et enjeux », c'est le titre des actes du colloque publié aux éditions L'Harmattan. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec Agnès Chauveau, avec Meryl Moneghetti, avec Patrick Molinier, Julien Douminc, Nathalie Rouvillain et pour les archivinats, Véronique Jolivet.